Mardi 3 septembre 2024, vous écoutez 102.3 FM. Auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue à ce bulletin de nouvelles dont l'accent est mis sur l'éducation. Je suis Arlette Josué en équipe avec ma collègue Valérie Montreuil. Voici les grands titres de cette édition.
Mesdames et messieurs, bonjour. La réputation de Via Rail est en danger après les événements survenus samedi. Un spécialiste en affaires publiques croit qu'un dirigeant de l'entreprise doit absolument sortir publiquement pour redonner confiance aux passagers. Le jeune homme de 15 ans qui a été happé par un VUS mercredi dernier, alors qu'il traversait un passage piéton dans l'arrondissement d'Anjou à Montréal, a succombé à ses blessures. Le Centre antipoison du Québec affirme avoir recensé, depuis le début de 2024, 39 décès et environ 800 intoxications ayant eu des conséquences de modérées à sévères qui étaient liées à des médicaments. Le premier ministre Justin Trudeau a réclamé dimanche la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza et a appelé à ce que le groupe terroriste dépose les armes. Mesdames et messieurs, nous avons aussi préparé d'autres actualités internationales, mais avant les détails, voici l'éditorial présenté par le directeur général de Radio Centre-Ville, M. Wanex Lalanne Zéphir.
Colonisé par différentes puissances européennes comme l'Espagne, Royaume-Uni, France, Nouvelle-France, le territoire américain s'est développé petit à petit. En 1776, après la guerre de l'indépendance qui a été victorieuse, les États-Unis allaient être nés avec le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, Rhode Island, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Plus tard, le territoire s'est élargi avec l'achat de la Louisiane et de l'Alaska. Depuis lors, ce pays n'arrête pas d'étonner le monde, allant de surprise en surprise. Développé très rapidement avec l'arrivée massive des immigrants européens au 19e siècle, les États-Unis est devenu, après la Première Guerre mondiale, la plus grande puissance mondiale. Considéré encore comme tel, les États-Unis présentent plusieurs facettes. Un pays d'immigration. En 2015, on dénombrait 48 millions d'immigrants aux États-Unis, soit 15% de sa population totale. Pays de restriction, ces 15% ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême de l'État. En d'autres termes, la présidence n'est pas pour ces 15%. Il faut être de la troisième ou de la deuxième génération. C'est ce qui a permis à M. Barack Obama d'être élu président en deux fois. Un autre visage des États-Unis, c'est un pays raciste. Le racisme, qui est une institution, accordait aux Américains blancs des droits et des privilèges non accordés ou tout simplement refusés aux Amérindiens, aux Afro-Américains, aux Asio-Américains et aux Latino-Américains. Les Euro-Américains, en particulier les Anglo-Américains, sont privilégiés par la loi. États-Unis, pays où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes. Les femmes peuvent avoir les mêmes emplois que les hommes. Elles peuvent être élues sans aucune restriction. Donc, qu'est-ce qui aurait empêché à la candidate démocrate, Mme Harris, d'accéder à la présidence américaine? Elle est née le 20 octobre 1964 en Californie, aux États-Unis. Donc, elle n'est pas une immigrante de première génération. Elle a seulement 59 ans, donc pas trop âgée, contrairement à Joe Biden. Elle peut mener le pays à bon port. Les Américains ont déjà voté un noir au pouvoir, Barack Obama. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, mais une femme noire d'origine asiatique a-t-elle la même chance qu'un homme blanc? Il n'est écrit nulle part aux États-Unis, pour ne pas dire nulle part en Occident, qu'une femme noire ne peut pas accéder à la présidence d'un pays. Donc, Mme Harris est bien placée pour faire l'histoire. Elle va être, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, la première femme asiatique noire à être élue présidente aux États-Unis. C'est ce que souhaite d'ailleurs Radio Centre-Ville. Toutefois, ce souhait est conditionnel. Il faut que Mme Harris promette de tout faire pour que les Palestiniens puissent recommencer à vivre. Il faut que l'Occident, en particulier les États-Unis, arrête de se servir de l'Ukraine pour attaquer la Russie. Il faut que l'administration américaine invite la France à lever son genou sur le coûts de certains pays de l'Afrique. Et il faut que la politique indivisée pour régner soit abandonnée. Il faut que toutes les couches sociales soient traitées de façon équitable. En un mot, il faut que les droits de tous les humains soient respectés. Ces conditions traduisent l'importance de vrais changements dans le monde. Il ne suffit pas de choisir un candidat pour son genre ou pour sa couleur, mais pour ce qu'il peut apporter de concret de la société. Il nous faut des leaders pour qui les intérêts de la majorité priment sur ceux de la minorité. Des leaders pour qui le bien-être collectif a le dessus sur celui de l'individu. En ce sens, les États-Unis se trouvent face à l'histoire. Les électeurs vont devoir faire appel à leur raison. Que la meilleure gagne.
La réputation de Viareil est en danger après les événements survenus samedi. Ça ne passera pas tout seul, soutient Louis Aucoin, spécialiste en affaires publiques, qui croit qu'un dirigeant de l'entreprise doit absolument sortir publiquement pour redonner confiance aux passagers. Viareil a fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire dans une pareille situation. Ça prend absolument une intervention du PDG. Il ne faut pas faire comme si tout allait bien. Lance Monsieur Aucoin, président de l'agence Aucoin Stratégie et Communication. Samedi, des centaines de passagers d'un train Viareil reliant Québec et Montréal sont restés coincés à l'intérieur de leur wagon durant 10 heures à la suite d'un bris mécanique. Les employés refusaient de laisser sortir les passagers et peu d'informations étaient transmises à ces derniers. Selon M. Aucoin, au-delà des dédommagements aux passagers et des excuses publiques, la haute direction doit faire preuve de transparence et démontrer son engagement à la suite d'un tel événement. Le jeune homme de 15 ans qui a été happé par un SUV mercredi dernier alors qu'il traversait un passage piéton de l'arrondissement d'Anjou à Montréal a succombé à ses blessures. Le décès de l'adolescent a été constaté au centre hospitalier, a confirmé l'agent Manuel Couture, porte-parole du service de police de la ville de Montréal lundi. Il s'agit de la 16e collision mortelle à survenir sur le territoire du SPVM depuis le début de l'année, dont 10 piétons, a précisé M. Couture. Rappelons que le 28 août dernier, vers 20h, un automobiliste qui circulait en direction nord sur le boulevard Louis H. Lafontaine est entré en collision avec le jeune homme à l'angle du boulevard métropolitain. 30 décès liés à une intoxication aux médicaments depuis le début de l'année. Le Centre anti-poison du Québec affirme avoir recensé depuis le début de 2024 39 décès et environ 800 intoxications ayant eu des conséquences de modérées à sévères qui étaient liées à des médicaments. Ça nous inquiète car ces chiffres ne sont pas négligeables, dit haut de voix la docteure Maude Saint-Onge, directrice médicale du centre. Des quelques 800 intoxications, la vaste majorité concerne des gens de 13 à 69 ans, mais les plus jeunes et les plus vieux ne sont pas à l'abri. Il peut s'agir par exemple d'erreurs dans l'administration ou la prise de médicaments d'une intoxication accidentelle chez un enfant ou encore un abus de substances chez un jeune, explique-t-elle. Il faut se souvenir qu'il y a 72% de jeunes qui vont commencer leur première consommation d'opioïdes avec des substances qui sont à la maison. Le Centre anti-poison du Québec se dit encore préoccupé par l'accès aux médicaments qu'on trouve à la maison, que ce soit sur l'ordonnance ou en vente libre, mais aussi aux produits de santé naturelle. En 2023, près de la moitié des 52 000 appels faits au centre étaient liés à ces différentes substances. La docteure Saint-Onge rappelle d'ailleurs que ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Il est important de consulter un pharmacien avant d'utiliser des produits de santé naturelle si l'on prend des médicaments prescrits, dit-elle. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses entre les deux. Heureusement, sur l'ensemble des appels pour intoxication aux médicaments, environ les deux tiers sont des cas que les gens peuvent prendre en charge sécuritairement à la maison avec l'aide de professionnels du centre, dit la médecin. On est quand même capable de diminuer les consultations aux urgences. Chez elle, Julie Daigle, côté rappelle fréquemment à sa fille de 2 ans que les pilules ne sont pas des bonbons. Ici, le mot d'ordre est que ça peut être très dangereux de prendre de la médication qui n'était pas destinée, raconte la femme de 29 ans. Elle garde d'ailleurs tous les types de médicaments dans une armoire verrouillée. Cette pratique semble toutefois peu courante. 85% des parents affirment ne pas placer leurs médicaments sous clé et hors de portée de leurs enfants sur une base régulière. Selon un sondage réalisé par Angus Reid en 2023 auprès de résidents de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de l'île du Prince-Édouard et du Québec. Dans la majorité des familles, on va savoir où est l'alcool à la maison et quelle quantité il y a dans la bouteille. On va aussi avoir une conversation avec nos enfants à ce sujet, mais pour les médicaments, on les laisse souvent accessibles dans notre pharmacie, soulève Chantal Valérand, directrice générale de Jeunesse sans drogue au Canada. Il est important de conscientiser les enfants au risque des médicaments dès un jeune âge, affirme Madame Valérand. Pour ce qui est des adolescents, elle suggère aux adultes d'aborder la question avec eux sans être alarmiste. L'idée est d'aller à la rencontre des jeunes en vérifiant ce qu'ils savent sur le sujet, quelles sont leurs sources et de vraiment traiter ça comme un enjeu de société. Pour réduire les risques d'intoxication, la docteure Maud Saint-Onge nous recommande de ne pas acheter de médicaments dans des emballages grand format. Ça a bien été démontré que limiter l'accès à la quantité va diminuer la sévérité des intoxications. Donc, ça peut ne pas être banal, ça peut éviter de se retrouver aux soins intensifs. Quant aux cachets prescrits aux enfants et aux adolescents, ils peuvent être placés dans un pilulier sur lequel les jours de la semaine sont inscrits, conseille Audrey Elliott, pharmacienne au Centre Antipoison du Québec. De cette façon, ils n'oublient pas un jour sur deux de les prendre et ils n'ont pas accès au mois complet. Afin d'éviter d'accumuler les médicaments, il est aussi recommandé de les trier au moins une fois par an, souligne Alain Renard, directeur des programmes de gestion à l'Association pour la récupération de produits de santé. Ceux qui sont inutilisés ou périmés doivent être rapportés à la pharmacie, indique-t-il. Une partie importante des Québécois et des Canadiens ignore qu'il ne faut pas jeter des médicaments à la poubelle, dans l'évier ou dans la toilette, poursuit M. Renard. Malheureusement, il pourrait y avoir des effets sur la nature, sur les espèces animales et sur la qualité de l'eau. Il y a un problème environnemental de pollution lié à la récupération des médicaments, ajoute-t-il. Mesdames et messieurs, voici la page internationale de notre radio-journal qui vous sera présentée par ma collègue Valérie Montreuil.
Le premier ministre Justin Trudeau a réclamé dimanche la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza et a appelé à ce que le groupe terroriste dépose les armes. Dans une publication sur le réseau social X, Justin Trudeau a commencé par qualifier le meurtre récent de 6 otages israéliens de dévastateur et révoltant, avant d'écrire que le Hamas doit libérer tous les otages et déposer les armes. Le premier ministre a ajouté que le Hamas n'a aucun avenir dans la gouvernance de Gaza. Les dirigeants doivent conclure à un accord pour rapatrier le reste des otages et mettre fin à la violence. Le gouvernement canadien a fermement condamné l'assassinat de ces 6 otages. Le Canada condamne sans équivoque le meurtre de 6 otages israéliens innocents par les terroristes du Hamas à Gaza. J'adresse mes plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches, a écrit plus tôt dans la journée le ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sur X. Le Hamas doit libérer tous les otages et nous continuons de demander un cessez-le-feu immédiat. La violence doit cesser. Mais Yann Chavi était d'abord incrédule lorsque des rumeurs ont fait surface sur les réseaux sociaux selon lesquelles sa cousine était morte. Carmel Gatt avait, après tout, récemment été vue par certains de ses camarades otages israéliens en train de faire du yoga pour lui remonter le moral pendant les mois qu'elle a passé en captivité avec le Hamas. Mais les espoirs de Mme Chavi quant à la survie de sa cousine ont été brisés lorsqu'elle a vu des reportages confirmant qu'elle faisait partie des 6 otages dont les corps ont été récupérés par l'armée israélienne à Gaza samedi, peu de temps après leur assassinat. Mme Chavi, qui vit à Toronto, a déclaré qu'elle lutte à la fois contre la colère et le deuil après avoir appris le sort de Carmel Gatt. « Je ne peux pas arrêter de pleurer, je ne peux pas comprendre. » « Je suis très en colère », a-t-elle confié lors d'une entrevue téléphonique, ajoutant qu'elle prévoyait de se rendre en Israël lundi pour assister à ses funérailles. Le groupe terroriste a capturé plus de 200 otages lors de l'attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre en cours. Plus de 1200 Israéliens avaient alors été tués, dont l'une des tantes de Madame Chavi. Israël riposte depuis lors et les responsables de la santé à Gaza affirment que les 11 mois de guerre qui ont suivi ont tué plus de 40 000 personnes, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants. La libération des otages a été un jeu clé dans les pourparlers de la paix menée par la communauté internationale pour mettre fin à la guerre. Le Hamas s'engageant à libérer tous les otages si Israël cesse ses attaques à Gaza et libère des centaines de prisonniers. Israël insiste sur le fait qu'il ne s'arrêtera pas tant que le Hamas n'aura pas été détruit. Madame Chavi a indiqué que les circonstances de l'enlèvement de sa cousine sont restées inconnues pendant des mois et ne sont devenues claires que lorsqu'un groupe d'otages a été libéré et a déclaré l'avoir vue en vie et en bonne santé. Ils nous ont dit qu'elle était saine et sauve et que personne ne l'avait touchée ou quoi que ce soit d'horrible de ce genre, a-t-elle déclaré. Carmel Gatt était une instructrice de yoga, a affirmé sa cousine, et continuait régulièrement cette pratique en captivité. Les otages qui ont été libérés pendant une pause dans les hostilités en novembre ont également déclaré qu'elle leur avait enseigné la méditation et des exercices de yoga pour les aider à survivre. Le ministère israélien de la Santé a déclaré que les autopsies avaient déterminé que Mme Gatt et les 5 autres otages avaient été abattus à bout portant et étaient morts jeudi ou vendredi. L'armée a déclaré que les corps avaient été récupérés dans un tunnel de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, à environ 1 kilomètre de l'endroit où un autre otage avait été sauvé la semaine dernière. La mort de 6 otages a déclenché une vague de protestations contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Jérusalem pour lui demander de conclure un accord de cessez-le-feu et d'obtenir la libération immédiate du reste des otages. En Haïti, Godfrey Otouge, le commandant kényan de la mission multinationale de soutien à la sécurité, le MMSS, dans sa déclaration hebdomadaire aux médias, a expliqué « Notre engagement à lutter résolument contre les gangs en Haïti ne fait que commencer. La mission multinationale de soutien et la police nationale d'Haïti mènent des opérations de dégagement à Delma, Bel Air, Solino et leurs environs pour éliminer les gangs et rétablir la normalité dans ces zones. Nous remercions le gouvernement américain pour son soutien continu en répondant à notre demande d'équipement supplémentaire. » La mission a reçu des véhicules et des équipements supplémentaires au cours de la semaine dernière, ce qui a permis des opérations conjointes plus soutenues. Je tiens à réitérer que les opérations visant à contrer et à éliminer les activités des gangs dans tout Haïti prennent forme tout en soulignant qu'il s'agit d'un processus et d'un cheminement qui nécessite que nous marchions tous ensemble. Nos agents restent fidèles à leur mandat et adhèrent de manière professionnelle au droit international des droits de l'homme, comme le stipule la politique de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Cela vise à garantir que la sécurité des civils demeure notre priorité numéro un. Les opérations de pacification seront menées par voie maritime, terrestre et aérienne. Les opérations de sécurité seront menées route par route, rue par rue et maison par maison, ne laissant aucune place aux gangs. Il incombe donc aux gangs de déposer leurs armes et de se rendre au gouvernement pour faire face à l'état de droit. Pendant ce temps, la justice kényane a extradé dimanche Kevin Kanyete, soupçonné du meurtre de sa petite amie et visé par un mandat d'arrêt des autorités américaines. L'homme de 40 ans avait fui Boston pour Nairobi en novembre 2023. Seulement quelques jours après que le corps de Margaret Mbitu, une aide-soignante, a été retrouvé près d'un parking de l'aéroport Logan de Boston. Voici les détails avec Africa News.
La justice kényane a extradé dimanche Kevin Kanyete, soupçonné du meurtre de sa petite amie et visé par un mandat d'arrêt des autorités américaines. L'homme de 40 ans avait fui Boston pour Nairobi en novembre 2023, seulement quelques jours après que le corps de Margaret Mbitu, une aide-soignante, a été retrouvé près d'un parking de l'aéroport Logan de Boston. Après une vaste chasse à l'homme, l'individu est arrêté puis incarcéré au mois de janvier. Seulement une semaine après son interpellation, Kevin Kanyete réussit à s'évader de la prison de Mutaiga à Nairobi, jetant le discrédit sur ce lieu de détention. Son évasion a entraîné l'arrestation de 4 policiers, de 2 de ses proches et d'un avocat. Après 5 jours de cabale, le fugitif est finalement appréhendé chez l'un de ses cousins vivant près de la capitale, Nairobi. Accusé de meurtre au premier degré, Kevin Kanyente sera entendu dès ce mardi par le tribunal de Boston.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Beijing à 3h10 lundi pour participer au sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, qui se tiendra dans la capitale chinoise du 4 au 6 septembre. Pays le plus méridional d'Afrique, l'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent et un membre des BRICS. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique du Sud atteindra 55,6 milliards de dollars américains, ce qui représente environ un cinquième du total des échanges commerciaux de la Chine avec le continent. La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud pendant 15 années consécutives, tandis que l'Afrique du Sud a été le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique pendant 14 années consécutives. Voici encore les détails avec Africa News.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Beijing tôt ce lundi matin pour le forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra dans la capitale chinoise du 4 au 6 septembre. L'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent africain et membre des BRICS, et la Chine est restée le premier partenaire commercial du pays depuis 15 ans.
From the South African perspective,
du point de vue de l'Afrique du Sud, il existe de nombreux domaines offrant de nombreuses opportunités, en particulier pour les investisseurs chinois. Dans le secteur des énergies, l'ensemble de la révolution énergétique, y compris des véhicules électriques, les panneaux solaires, la priorité à la technologie. Nous avons besoin de cela parce que nous devons transformer toute notre production, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la santé ou de l'administration, pour qu'elle soit numérisée. Ce sont donc des domaines sur lesquels nous nous concentrerons à l'avenir. Ce sommet a pour thème s'unir pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. L'Afrique est en train de mettre en œuvre l'agenda 2063. C'est un programme très important pour l'Afrique. Vous mettez en œuvre votre deuxième objectif du centenaire et le forum devient ce pont qui permet de réaliser ce progrès essentiel. Nous espérons que lorsque les dirigeants se rencontreront, ils présenteront une déclaration et un plan de mise en œuvre très solide, représentant le dynamisme des relations entre l'Afrique et la Chine. Nous nous attendons également à ce que certains des principaux résultats se concentrent sur des domaines tels que l'industrialisation de l'Afrique. De nombreux dirigeants africains, dont Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, sont attendus à ce sommet.
Le correspondant de France 24 en Ukraine, Gulliver Krag, fait le point sur les frappes russes qui ont ciblé la capitale Kiev ainsi que d'autres villes du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Pendant ce temps, plusieurs appels réclament l'arrestation du président russe Vladimir Poutine qui s'est rendu en Mongolie, mais le Kremlin se dit serein. Frappé d'un mandat d'arrêt pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie, Vladimir Poutine est arrivé mardi en Mongolie, le premier pays membre de la CPI qu'il visite depuis l'émission de ce mandat et qui donc est tenu à ce titre de l'arrêter. Comme tous les autres États partis au statut de Rome qui a fondé la CPI, la Mongolie a l'obligation de coopérer avec elle, a déclaré à la presse un porte-parole de cette juridiction, Fadi El Abdallah. En Ukraine, le ministère des Affaires étrangères a aussi exhorté, dans un communiqué, les autorités mongoles à transférer Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale de La Haye.
On va justement retrouver notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Bonjour à vous, Gulliver. Quelles sont vos informations?
Oui, les Ukrainiens pensaient qu'après les frappes massives d'il y a une semaine, il y aurait peut-être un répit pendant que les Russes accumulent plus de missiles et de drones, mais non, pas vraiment. 58 entre drones et roquettes de différents types ont été tirés sur tout le pays cette nuit, plutôt au petit matin, aux alentours de 6 heures du matin, et c'était essentiellement la capitale qui était visée, une quarantaine entre drones et roquettes. Et comme d'habitude, l'armée de l'air dit avoir abattu la grande majorité de ces projectiles. On a certainement entendu les bruits des missiles solaires, très forts en fait, plusieurs explosions, et c'était clairement les missiles solaires sortant pour abattre les missiles. Il y avait beaucoup de missiles balistiques qui sont beaucoup plus difficiles à abattre, qui ont été utilisés ce matin. Tout de même, ils affirment en avoir abattu un peu plus que la moitié. Néanmoins, il y a des dégâts dans la capitale. Ils disent, les autorités de la ville, que seulement 2 personnes ont dû être hospitalisées et qu'il n'y a pas de dégâts importants sur les infrastructures essentielles. Mais il y a là où ils font le chauffage pour une école, c'est peut-être symbolique, le jour de la rentrée scolaire qui a pris feu, et aussi une station de métro où les Kiev ont l'habitude de se mettre à l'abri a été légèrement endommagée, et aussi une mosquée, et ça c'est peut-être le plus important, si c'était délibéré, puisque je vous rappelle que la plus grande communauté musulmane en Ukraine, ce sont les Tatars de Crimée, qui sont farouchement opposés à l'occupation russe de la péninsule, rêvent d'y retourner. Refat Choubarov, le chef du Mejlis, qui est leur plus grande organisation politique, a dit que les frappes de ce matin étaient encore un rappel supplémentaire que le pays, la Russie, est l'incarnation du mal.
Et cette guerre, Gulliver, elle se poursuit aussi dans l'Est, avec une situation difficile près de Pokrovsk.
Oui, et j'ai un peu des informations contrastantes parvenant du front de Pokrovsk, qui est cette ville clé dans le Donbass, et les Russes s'y approchent tous les jours, ils prennent de plus en plus de villages juste à l'est et au sud-est de Pokrovsk. Je pense qu'ils sont à environ 8 km maintenant de la ville. J'ai reçu un message ce matin d'un soldat avec qui je suis en communication, qui combat justement sur ce front-là et qui, il y a quelques jours, était extrêmement pessimiste. Et là, ce matin, il m'a dit « ça va mieux, on a l'impression que les Russes ont enfin redéployé une partie de leurs réserves vers la région de Koursk en Russie, que l'Ukraine a attaquée au début du mois d'août ». C'était un peu l'effet escompté, mais c'est très tôt pour le dire. Il a dit tout de même que la situation reste extrêmement difficile, et d'autres analystes et militaires sont plus pessimistes par rapport au sort de Pokrovsk, parce que clairement les Russes sont très déterminés à prendre cette ville.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous concluons ce Radio-Journal. L'équipe de nouvelles vous remercie encore une fois de votre fidélité. La coordination a été assurée par Ismaël Bonigaba et la réalisation par Jean-Claude Tranquille. À la présentation, c'était Arlette Josué et Valérie Montreuil. Nous vous souhaitons une agréable journée.
L'équipe de MK Solutions Immigration vous présente l'émission J'apprends tous les dimanches de 13h à 14h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour être connecté sur l'immigration, les finances et autres, écoutez J'apprends avec Marilyn Kernizan et ses collaborateurs.
Vous voulez manger un bon mets créole, j'en mange la caille, Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tasseau de cabri, tasseau de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez-nous voir dès maintenant au 91 85 boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6161. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
Avis aux gens et amis du plateau central, la région du centre d'Haïti, haut et bas plateau. Les originaires des villes de Hinche, Thomasic, Tomod, Maïsad, Los Palisser, Calasus et Cavahal, Mirbalet, Sodo, Las Caobas, Belader et les villes avoisinantes. L'UDAC, l'Union des Amis du Centre, vous invite à la soirée des retrouvailles le samedi 7 septembre à partir de 20h à la Perle Retrouvée. Adresse 76 55 20e Avenue, Montréal. Admission $50 par personne. Venez, familles et amis, pour festoyer tous ensemble.
Deuxième génération d'immigrants, êtes-vous là? Où êtes-vous? Terre d'origine ou terre d'accueil? Edna Rencontre vous invite à chaque samedi de 21h à 22h à identifier avec ses invités les dualités conscientes ou inconscientes qui habitent la deuxième génération d'immigrants. d'une rencontre de soi et des autres pour repousser nos limites, découvrir de nouveaux horizons et voir autrement. Rendez-vous chaque samedi à Radio Centre-Ville, 21h à 22h, car nous sommes nés pour te servir.
Radio Centre-Ville, la mosaïque culturelle de la société d'accueil. 102.3 FM Montréal.